Pendant ces moments, nous n'allons plus tarder, nous voulons écouter la parole de Dieu. Et j'aimerais que nous puissions nous disponibiliser pendant ces moments et d'écouter ce que le Seigneur a prévu pour nous. J'aimerais qu'on apprête la chair et on va d'abord avant la prédication suivre une petite vidéo récap de tout ce que nous avons eu à être nourri durant le début de la série. Et je donne la place aux médias pour ce moment. Bienvenue chers médias, et après l'homme de Dieu va passer à la chair, il va même prier pour le message. Merci.
S'il y a une chose que l'Église ne sait plus faire, s'il y a une chose que la jeunesse ne sait plus faire, c'est prier. Danser, on sait. Chanter, on sait. Se divertir, on sait. Pique-niquer, on sait. Jouer, on sait. S'amouracher, oh ça, on est devenu expert. On apprend même aux parents certaines choses. On sait. Mais prier, on ne sait pas. Veiller, on ne sait pas. Quand vous veillez pendant 3 heures, on a l'impression que vous n'êtes plus normal. Et quand on dit on va veiller avec l'intercession, on dit jamais, tout sauf ça. On est prêt à partager des requêtes de prière, mais pas prier. On est prêt à parler de ce problème aux hommes, mais jamais à Dieu. Une jeunesse qui ne prie pas est une jeunesse défectueuse. Une jeunesse qui ne prie pas est une jeunesse vouée à une suite d'échecs. Une jeunesse qui ne prie pas est une jeunesse qui ne fera rien de son temps. Une jeunesse qui ne prie pas est une jeunesse qui n'expérimentera jamais la victoire de Christ à Golgotha. Les bénéfices de la croix de Golgotha, c'est pour les intimes de Dieu. Non, je répète. Le bénéfice des victoires, de la victoire de Christ à Golgotha, les bénéfices de la croix, c'est pour les intimes de Dieu. Les intimes de Dieu. Si tu crois que Christ a accompli cette victoire, alors tu ne fuiras pas devant la tentation. Tu veilleras et tu prieras et tu diras « Loin de moi !» Et moi j'aime bien le dire, je ne joue pas dans la même catégorie que le sorcier. Mon adversaire, c'est leur maître. Donc quand le sorcier vient, moi je les chasse. Quand le diable vient, je résiste. Oui, c'est ce qui s'est passé à la croix. Vous pensez quand on dit une série de victoires, c'est le package du salut. Et un homme qui est dans les seigneurs, il ne fuit pas le sorcier. Que le marabout de la ville entre par cette porte, il sortira par celle-là. Mais aussi longtemps que vous ne l'avez jamais vécu, vous avez l'impression que c'est des fables. On ne joue pas, le chrétien, né de nouveau, ne joue pas dans la même catégorie que le sorcier, que le magicien, quel que soit son grade. Parce que mon adversaire, c'est le diable. Mon maître ne m'aime pas l'adversaire de leur maître. La marche dans cette saison, dans la saison de victoire, ne sera pas sans risque ou sans obstacle. Il est important que tout enfant des dieux comprenne cela. Christ a accompli de grandes choses à la croix. Il a rendu possible une victoire qui nous était inaccessible. Mais nous devons savoir que posséder et vivre, marcher dans cette victoire ne sera pas sans risque. Nous connaîtrons des obstacles. C'est être naïf que de penser que lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on va en vacances à Hawaï. C'est pas le cas. Vous allez en Russie ou en Ukraine. Vous allez en Tchétchénie, en Ouzbékistan, en Afghanistan, le désert. Vous entrez, vous vous mêlez, vous vous engagez dans une guerre sans merci. Ne soyons pas naïfs. Commencez à dire, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, les choses ne marchent plus. Mais c'est normal. Quelqu'un, quelque chose, un système essaiera de te décourager dans ta marche vers la perfection, dans ta marche vers la réalisation de plans que Dieu a pour toi.
Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne une fois de plus d'être à ses pieds pour écouter sa parole. Et pour moi, c'est un privilège d'être celui par lequel le Seigneur voudrait bien passer pour communiquer avec nous encore aujourd'hui. J'aimerais nous inviter à une courte prière. Seigneur, nous te disons merci pour l'occasion qui est devant nous d'être transformés par ta parole. Seigneur, nous sommes disposés devant toi et nous prions, Seigneur, que cette parole trouve dans chacun de nous une terre fertile afin qu'elle prenne racine, qu'elle bourgeonne, qu'elle grandisse, qu'elle produise du fruit et du fruit qui demeure. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il m'a été demandé de partager avec nous la parole de Dieu autour du thème « Le pouvoir de notre identité en Christ pour une vie victorieuse ». Le pouvoir de notre identité en Christ pour une vie victorieuse. Bien, si vous avez votre Bible, j'aimerais vous inviter à l'ouvrir dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3. Philippiens, chapitre 3. Je vais faire la lecture des 11 premiers versets. Il est écrit ceci. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour cela, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice, de la loi. 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquelles j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Parole du Seigneur. Ce sont les écrits de l'apôtre Paul et il s'adresse aux chrétiens de Philippe. Philippe était une ville dans la Macédoine. Et lorsque Paul est en train d'écrire ses paroles, il est enchaîné, il est en prison. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul dit, lui qui est en prison, il exhorte l'Église à la joie. La joie dans le Seigneur. Le pouvoir de notre identité en Christ pour une vie victorieuse. J'aimerais vous inviter un peu à regarder ce que Paul dit à propos de lui dans ce texte. Si vous lisez attentivement ce texte, vous allez remarquer qu'il y a un avant dans la vie de Paul, il y a deux phases qu'il est en train de décrire. Il est en train de parler de sa vie avant de rencontrer Christ, et il parle de sa vie depuis qu'il a rencontré Christ. En d'autres termes, le passage de Christ dans la vie de Paul a provoqué un changement et un changement radical. Un changement radical. Et ce changement-là, c'est un changement d'abord d'identité. L'identité, c'est quoi? Eh bien, l'identité, c'est tout simplement ce qui fait de vous ce que vous êtes. Si vous vous présentez, chacun a sa façon de se présenter. Si je vous demandais de vous présenter, vous allez dire beaucoup de choses sur vous. Mais ce qui fait de vous ce que vous êtes, ce qui est de particulier chez vous, c'est cela votre identité. Et l'identité, ce n'est pas seulement ce que vous pensez de vous-même, mais c'est aussi ce que les autres savent de vous. C'est votre réputation. Ça fait partie de votre identité. Alléluia. Voilà. Paul parle de ce qu'il était avant de rencontrer Christ. Et ce qu'il dit de lui, ce n'est pas seulement ce qu'il pense de lui-même, mais c'est aussi comme ça qu'il était connu. Comment Paul était connu? Paul était connu comme un juif, un pharisien. Il le dit lui-même. Il dit, je suis circoncis, circoncis le huitième jour, d'après la tradition, d'après la loi. Donc c'est pour dire que je suis quelqu'un qui est élevé dans la bonne tradition. Je suis d'une bonne famille, israélite de naissance. Je suis israélite, je ne suis pas apatride, je suis citoyen d'une grande nation, la nation élue de Dieu. Comme beaucoup de Congolais aujourd'hui sont fiers d'être Congolais. N'est-ce pas? De père et de mère. Oui. Paul est fier quand il se présentait ou quand ce qu'on savait de lui ou ce qu'il pensait de lui. Il savait qu'il est israélite de naissance, de la tribu de Benjamin. Il n'est pas seulement israélite. Mais vous pouvez trouver ses origines tribales. Voilà. Tribu de Benjamin. Hébreu de pur sang. Je suis descendant des Hébreux. Pharisien. Voilà, ça c'est son métier. Je ne suis pas qu'un homme de la rue. J'ai la connaissance, des compétences. Je suis instruit. Ce sont des éléments de l'identité d'une personne, n'est-ce pas? Quand vous présentez, vous voulez qu'on sache d'où vous venez, qu'est-ce que vous savez faire. C'est ça, Paul, pharisien. Et il se présente comme quelqu'un d'influent, zélé pour la loi. Et oui, il était très zélé, très influent, au point qu'il persécutait l'Église. À l'époque, l'Église était considérée comme une secte, des gens qui propagent des hérésies. Et lui, il était fier d'être celui qui combat les hérésies, qui purifie le peuple de Dieu de tout ce qui est impur. Voilà. Et il avait le pouvoir de le faire. Il était craint. La Bible dit que même lorsqu'on lapidait Étienne, Paul était là, c'est lui qui tenait les habits, c'est lui qui était là, il validait, il approuvait. Et il dit qu'il est quelqu'un de sans reproche, il est irréprochable du point de vue de la moralité. Oui, vous pouvez penser que vous êtes d'une bonne moralité, ça c'est une chose. Mais le dire publiquement, ça c'est un très grand risque, parce que vous pouvez facilement être contredit. Qui peut aujourd'hui se tenir debout et dire « moi ». Je suis sans reproche. Voilà. Donc c'est quelqu'un d'intègre, de discipliné, quelqu'un qui a une bonne réputation dans la société. C'est ça, Paul. Et donc, le Paul d'avant la rencontre avec Jésus-Christ, c'est cet homme fier de son identité, respecté dans la société, qui jouit d'une bonne réputation, qui sort d'une bonne famille, quelqu'un qui n'est pas pauvre, quelqu'un qui est haut placé dans la société. Il est influent. C'est l'exemple d'un homme qui a réussi. C'est ça, Paul. C'est cet homme-là que toute jeune fille veut épouser. S'il faut épouser quelqu'un, en tout cas, si vous ratez Paul, au moins épousez dans sa famille. Parce qu'au moins, dans sa famille, il y a quelqu'un d'influent. N'est-ce pas? C'est un gagnant. Si on devait qualifier Paul, eh bien, ça ressemble à quelqu'un qui a gagné, n'est-ce pas? Qui a réussi la vie. En d'autres termes, un victorieux. Oui. Et beaucoup de gens, lorsque nous parlons de la victoire, Ils ont toutes ces choses dans qui leur passent par la tête. Quand ils parlent de la victoire en Jésus-Christ, ils voient toutes ces choses. Je suis victorieux, je serai victorieux, je serai couronné. Alors quand ils chantent « Je serai couronné », et ils voient toutes ces choses dont Paul s'est vanté, n'est-ce pas? J'aurai un diplôme, j'aurai un mari, je serai respecté. On ne se moquera plus de moi. Oui, j'entrerai dans une famille honorable. Les gens vont me saluer avec respect. Alors là, je serai victorieux. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Paul parle de lui, il dit, verset 7, « Mais ces choses que le monde admire, ces choses que nous aussi aujourd'hui nous admirons. » En fait, c'est même le sujet de prière de beaucoup d'entre nous. Ces choses que nous poursuivons, ces choses que nous voulons recevoir en Jésus-Christ, ces choses que nous espérons que nous allons recevoir, nous aspirons à ces choses, nous voulons les voir se réaliser, nous prions, nous jeûnons, nous faisons tout pour les obtenir. Paul les avait avant d'avoir rencontré Jésus. Il les avait. Les choses que vous cherchez en Jésus, Paul les avait sans Jésus. Ce n'est pas seulement Paul. Il y en a beaucoup aujourd'hui dans le monde qui les ont. Le psalmiste le dit dans Psaume 73. Comment le méchant prospère? Il n'arrive pas à comprendre. Moi, je me suis donc sanctifié en vain. Eux ne connaissent jamais la disette. Ils sont toujours rayonnants. Ils ont l'embonpoint. Ils ont la teinture, la posture, la carrure. Mais moi qui me sanctifie, rien. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont frustrés en Jésus, mais frustrés. On chante, mais on est frustrés. Après les danses, après la joie, après la transpiration, quand on rentre dans le moment de silence, on est frustré parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de victoire. Où est la victoire? Oui, pourtant il est écrit, la seconde maison sera plus glorieuse que la première. Pourtant, on a expérimenté la puissance de la résurrection. Mais où est la victoire? Alors, il y en a qui vont dans tous les sens. Peut-être je suis lié, je suis poursuivi, je suis. On cherche la victoire. Mais le monde a ces choses sans Jésus. Paul dit, depuis que j'ai rencontré Jésus, cet homme, depuis que je l'ai rencontré, toutes ces choses... Verset 7 de Philippiens 3. Toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, des victoires, des trophées, toutes ces choses, aujourd'hui je les regarde comme une perte à cause de Christ. C'est une perte. Et pourtant avant, j'en étais fier. Ça faisait mon identité. J'étais fier de me présenter avec tous ces titres, toutes ces choses. Mais aujourd'hui, ces choses-là, certaines d'entre elles, ils les avaient toujours. Après avoir rencontré Christ, Paul est toujours resté hébreu. Son identité nationale n'a pas changé. Il est resté hébreu, mais il y a beaucoup de choses qu'il a perdues. Il n'était plus pharisien. Il n'avait plus l'influence dont il jouissait avant. Il avait perdu le pouvoir. Il avait perdu cette réputation. Il les a perdus. Il ne les a pas perdus malgré lui. Non, il y a renoncé. Alléluia.
Ce ne sont pas des choses qu'on lui a arrachées, mais ce sont des choses auxquelles il a renoncé. Il a démissionné. Pourquoi? Parce qu'il est devenu une personne nouvelle. L'identité a changé. Jésus a changé son identité. Jésus a changé sa personnalité. Jésus a changé son caractère. Jésus a changé ses désirs. Jésus a changé ses ambitions. Jésus a changé ses sujets de prière. Jésus a changé ce qu'il poursuit. Jésus a changé ses ambitions, ce qu'il désire, ses priorités. Jésus a changé ça. Il a changé ça. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il a changées. Mais il y a un changement qui est intervenu au sein de lui, au fond de son cœur. Au point qu'il dit, toutes ces choses, c'est de la boue. Est-ce que Jésus, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as rencontré Jésus? Est-ce que vous pouvez raconter, écrire votre histoire? Qu'est-ce qu'on lirait? Si vous devriez écrire votre vie avant Jésus. Je dis bien, Paul n'était pas un syndicalin. Non, il n'était pas un voyou. C'était un homme respectable. Oui, mais avant Jésus n'est pas égal à après Jésus. Il dit toutes ces choses, c'est de la boue. Il y a renoncé et il y a quelque chose qui s'est passé depuis sa rencontre avec Jésus. Il a une nouvelle compréhension de ce qui est gain, de ce qui est victoire. Et bien aimé dans le Seigneur, ici, beaucoup de chrétiens ont un sérieux problème. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils parlent de victoire, ils ont exactement la même définition du gain que le monde. Il n'y a pas de différence. Ce que le monde appelle gain, le chrétien appelle cela aussi gain. Ce qui constitue réussite pour le monde, le chrétien l'appelle aussi réussite. Il n'y a pas de changement. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est qu'on vit des défaites et des défaites tous les jours. Il y en a même qui sont arrivés à dire, Jésus m'a déçu. Il m'a déçu. Comment tu comprends la victoire ou le gain? Qu'est-ce qui est gain pour toi? Et qui t'a dit que c'est ça qui est gain? Paul dit ces choses, c'est de la boue. De la boue. Je ne peux plus étaler cela. Si Paul devait avoir un profil Facebook ou un profil Instagram, imaginez ce que vous auriez vu sur son profil avant d'avoir connu Jésus. Ça serait le jour où il a reçu son diplôme, les voyages qu'il a effectués, n'est-ce pas? Les habits qu'il mettait, les gens qu'il a salués, c'est ça que vous verriez. Et après avoir rencontré Jésus, vous regardez son profil, vous constatez que quelque chose a changé. Parce que les choses qu'il était fier d'exposer avant, aujourd'hui c'est de la boue, il ne peut plus les exposer. Pas parce qu'il en est privé, non, parce qu'il n'en est plus fier. Ce n'est plus de ça qu'il est fier. Ce n'est pas ça qu'il a envie d'exposer. Ce n'est pas ça qu'il a envie que les gens sachent de lui. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas par ces choses qu'il veut qu'on le reconnaisse. Désormais, ce qu'il veut que les gens sachent ou regardent ou découvrent en lui, c'est Jésus. Le gain pour lui, c'est avoir Christ. Avoir Christ, c'est ça, gagner. C'est comme ça qu'il définit le gain, avoir Christ. Combien d'entre nous ont Christ? Combien ont Christ? Aïe, aïe, aïe. Combien ont gagné? combien ont gagné Christ. Pour combien d'entre nous, Christ représente un gain, pas une contrainte, mais un gain, un gain. Il y en a, lorsqu'on parle de Jésus, Jésus, non, Jésus, c'est comme cette force qui t'empêche d'avoir ce que tu veux avoir. Non, Paul dit Jésus, c'est mon gain. Non, il ne dit pas que Jésus m'a fait gagner. Non. Il ne dit pas qu'en Jésus, j'ai gagné des choses. Mais il dit Jésus, c'est lui mon trophée. C'est lui. Alléluia. C'est ça qui se passe lorsque l'identité en Christ, lorsque vous revêtez l'identité en Christ. Lorsqu'on devient chrétien, disciple de Christ. J'ai aimé ce que quelqu'un a dit tout à l'heure. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de quoi? J'aime la manière dont c'est dit en anglais. En anglais, on ne dit pas « je ne manquerai de rien ». En anglais, on dit « je ne voudrai rien ». I shall not want. Lorsque l'Éternel est mon berger, lorsque Jésus-Christ est mon berger, il n'y a rien d'autre que je vais désirer plus que Christ. C'est ça, la nouvelle identité en Christ. C'est ça qui se passe. Lorsqu'on est à Christ, lorsqu'on gagne Christ, les ambitions changent. Ce qui t'arrache le sommeil change. Ce qui avant t'arrachait le sommeil ne t'arrache plus le sommeil. Tu dors tranquillement. C'est la raison pour laquelle Paul pouvait être en paix même en prison. Avant, c'est lui qui a envoyé les gens en prison. Mais en Jésus, c'est lui maintenant qu'on envoie en prison. Vous voyez ça? Avant, c'était lui le bourreau. Et en Jésus, c'est lui le prisonnier. Et pourtant, sa joie a augmenté. Ça, c'est impossible, n'est-ce pas? Et c'est ça que la puissance de la résurrection fait dans la vie de celui qui revêt l'identité de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu as connu Jésus? Et qu'est-ce qui s'est passé depuis que tu as connu Jésus? La vie avec Jésus, la vie de Paul avec Jésus est devenue la vie d'un perdant, au sens mondain du terme. Regardez, Paul était pharisien, n'est-ce pas? Très influent, très puissant, très respecté. Mais après avoir rencontré Jésus, après avoir perdu tous ses honneurs, toute cette influence, il est devenu vendeur de tentes. Pour vivre, il devait vendre des tentes. Il a accepté de commencer à travailler de ses mains. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le plus important pour lui. Il perd sa position sociale, son influence politique, le respect, les honneurs, les relations, les avantages matériels et financiers. Il ne s'y accroche plus. Ce n'est pas par ces choses ou ni pour ces choses qu'il veut être connu. Sa vie a changé radicalement. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens ne sont pas victorieux? Pourquoi beaucoup de chrétiens ne font pas l'expérience de la puissance de la résurrection? Tout simplement parce que la puissance de la résurrection n'agit pas sur les vivants. La puissance de la résurrection agit sur ceux qui sont décédés. Vous ne pouvez pas ressusciter si vous êtes vivant. Non! Pour ressusciter, il faut d'abord mourir. Et c'est quoi mourir? C'est renoncer. Renoncer. Pourquoi tu n'es pas victorieux? C'est parce que tu es encore vivant. C'est ça ton problème. Alléluia. Il y a combien de vivants ici? Oui. Tu as encore ça. Vous voyez un cadavre. Vous pouvez même le chicoter. C'est vous qui allez vous fatiguer. Il ne réagit pas. Il est insensible parce qu'il est mort. Il est mort au péché. Mort au péché. Si vous êtes mort au péché, quand on vient vous toucher, on vient vous provoquer, on sent que vous ne réagissez pas. Vous n'êtes pas intéressant. Vous n'êtes pas intéressant. On vous provoque, on savait que celui-là, si tu oses entrer dans sa chambre, elle va exploser. Mais depuis que tu as connu Christ, non. Les mêmes provocations. Tu ne réagis plus. Tu es devenu comme un cadavre. Quand la tentation vient, cette fille, les filles ne pouvaient pas passer devant toi sans que la chaleur augmente au fond de toi. Mais depuis que tu as connu Christ, parce que tu es mort, tu es devenu insensible. Insensible. Parce que tu es décédé. Tu es mort au péché. Mort. Avant, tu ne pouvais pas voir 500 francs quelque part. Non, ça chatouille. Mais depuis que tu as l'identité de Christ, tu es mort. Mort. Alléluia. Quand Jésus-Christ entre dans ta vie, il va d'abord détruire. Parce que le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres des ténèbres. Pas dans ta famille d'abord, en toi d'abord. En toi. Et cette destruction, parfois, ça fait mal. Oui, ça fait mal parfois. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui vient à moi doit porter sa croix. Oui, la croix n'est pas une partie de plaisir. Ça fait mal. Ça fait mal, mais on accepte cette douleur. Pourquoi? Parce que ce qu'on a gagné, vous savez, parfois lorsqu'on célèbre la victoire, une victoire écrasante. Vous voyez, vous avez déjà été au stade. Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà été au stade. Quand un stade est bondé et que votre équipe marque, ou c'est la fin du match, vous avez gagné après un suspense, vous sautez. Quelqu'un peut te piétiner même. Mais ça fait mal, mais la victoire est tellement grande. Même cette douleur-là, vous ne la ressentez pas. Il y en a même qui sortent du stade avec les blessures. Ils se demandent, mais quand est-ce que je me suis blessé? Vous ne vous souvenez même plus. Pourquoi? Parce que la victoire était éclatante. Alléluia. C'est ça avec Jésus. Quand Jésus est ton trophée et que tu l'as eu, ces petites choses-là, ces petites douleurs-là. Ah non, il est parti, mon petit ami. Il a dit qu'entre nous, c'est fini. Parce qu'il a rencontré, parce que j'ai décidé de suivre Jésus. Alors il a dit, ou c'est moi, ou c'est Jésus. Alors, Vraiment, frère Abel, je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à dormir. Hey, c'est ça. Oui. Quand tu n'arrives pas à dormir, regarde à Jésus. Le trophée que tu as gagné. Alléluia. Oui, le diable ne veut pas que tu vois ce que tu as gagné. Il ne veut pas que tu vois ça. Il veut que tu restes scotché, accroché sur ce que tu as perdu. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont pitié d'eux-mêmes. Ils se regardent et disent vraiment, nous les chrétiens, c'est comme si nous sommes venus accompagner les autres. Ils ne regardent pas, ils ne saisissent pas la valeur de ce triomphe de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que Ève pêche dans le jardin d'Éden, il fallait que le diable lui montre que tu seras comme, vous serez comme des dieux, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que le serpent lui avait dit. Genèse chapitre 3. Vous serez comme des dieux. Et pourtant, il est écrit, ils avaient été créés à l'image des dieux. Ils étaient l'image de Dieu dans la création. Ils étaient le reflet de Dieu dans la création. Et Satan vient leur dire, vous serez comme des dieux. Et c'est ça qui se passe. Le diable vous promettra toujours ce que vous avez déjà. Et vous allez perdre la bataille tant que vous n'appréciez pas ce que vous avez en Christ. Le diable vous fera toujours douter de la valeur de ce que vous avez en Christ. Parce que c'est le seul moyen de perdre la bataille de la tentation. Il a fait la même chose avec Jésus. Si tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes. Il promet des royaumes au roi des rois. Vous voyez ça? Oui. Et le diable se comporte de la même manière aujourd'hui. Si tu me quittes, je ne sais pas qui va t'épouser. En tout cas, je ne sais pas. Et d'ailleurs, si on apprend ce que nous avons été, tu crois que quelqu'un va t'aimer? Vous voyez? Il te promet ce que tu as en Christ. Est-ce que tu connais qui tu es en Christ? Est-ce que tu connais le don de Dieu? Jésus, s'adressant à la femme samaritaine, lui a dit ceci. La femme samaritaine pensait que c'est elle qui va aider Jésus à trouver de l'eau pour altérer sa soif. Et Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui se tient devant toi, c'est toi qui vas lui demander de l'eau. Et il t'en donnerait. Non seulement pour éteindre, altérer ta soif physique, mais cette eau deviendrait des sources d'eau vive. Oui, même ta soif des choses spirituelles sera étanchée. La vraie victoire, bien-aimée dans le Seigneur, la vraie victoire, ce n'est pas ces choses que le monde poursuit. Ce n'est pas ces choses que le monde élève ou glorifie, car tout ce que le monde élève et glorifie est en abomination devant Dieu. La vraie victoire, 1 Jean chapitre 5, verset 4, la Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu ont triomphé du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre dépendance à Jésus. Est-ce que tu as connu Jésus? le prince de la paix, la source de notre joie, la force des faibles, le mari des veuves, le père des orphelins. Est-ce que tu l'as connu? Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Peut-être que j'ai parlé d'un Jésus que tu n'as jamais connu. Peut-être que tu réalises que tu viens à l'église, tu écoutes la parole, peut-être que tu sers même le Seigneur. Mais tu, lorsque tu regardes ta vie, tu ne sais pas dire, tu ne sais pas fixer une période d'avant et après et depuis que tu as connu Jésus. Tu ne vois pas à quel moment les choses ont changé dans ta vie. Tu ne te souviens pas du moment où tes ambitions, tes désirs, tes projets, tes priorités ont changé. Tu as encore les mêmes soifs que le monde a. Tout ce que les autres poursuivent, tu les poursuis. D'ailleurs, tu es dans l'amertume, tu te sens déçu, tu es insatisfait, tu as l'impression que tu es perdant. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, si c'est ça que tu ressens, j'aimerais te proposer ce Jésus. Il ne va pas seulement te donner ces choses, mais il va t'enlever l'envie de ces choses. Parce qu'il y a quelque chose de plus que ce dont tu as soif, et c'est Jésus. Si tu aimerais qu'on prie pour toi, pour que tu reçoives ce Jésus, lève ta main. Nous avons les yeux fermés, nous voulons prier. Si tu réalises que ce Jésus-là, tu ne l'as pas encore connu, et tu veux dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, entre dans ma vie et change mon identité. Je suis fatigué. Je suis fatigué de courir après ces choses que le monde élève et glorifie. Je suis fatigué. Je veux ce Jésus. Je te veux, Seigneur. Je te veux. Je te veux. Lève ta main. Nous allons prier. Merci, mon frère. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, Seigneur, merci. Que ton nom soit glorifié. Merci parce qu'au ciel, il y a de la joie pour un seul, une seule âme qui se répand. Seigneur, merci. Merci pour mon frère qui a levé la main devant toi. Merci pour ma sœur. Merci pour mon frère. Oh, Seigneur, merci. Seigneur, je te prie, je te prie, je te prie, comme tu l'as fait avec Paul. Oh, Seigneur, viens, entre et triomphe dans le cœur de ses bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Que les choses anciennes disparaissent et que toutes choses deviennent nouvelles. Que les choses anciennes disparaissent et que toutes choses deviennent nouvelles par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, merci pour la puissance de la résurrection qui met à mort tous les désirs du monde, les désirs de la chair, le désir d'être populaire, le désir d'avoir ce que le monde glorifie. Merci pour le désir de t'avoir et de t'avoir seul, de t'appartenir et de t'appartenir seul. Merci Seigneur, merci. Merci de devenir le Seigneur, le roi, le maître de ces âmes qui se sont levées devant toi. Tu es fidèle, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui sont là et qui ont peut-être déjà fait ce pas avec toi, mais qui ont réalisé qu'à un moment donné, ils se sont laissés prendre par le piège de l'ennemi. Seigneur, je prie pour la restauration. Je prie pour la restauration de la communion avec le Père, dans le nom de Jésus. Amen.